Bon, alors bonsoir. Il paraît qu'il y a eu beaucoup d'émotions au souper. Oui, on a fêté. C'est pas fini, on va fêter encore. En tout cas, au moins, ça a bien commencé la soirée. Alors, au point de vue des entretiens, bien naturellement, c'est le dernier, mais comme on se disait avec Sœur Claudette, la retraite finit en un sens, mais on peut dire aussi que ça commence parce qu'on est envoyé chacun et chacune pour être des visages de la miséricorde de Dieu. Alors, cet après-midi, au fond, Claudette nous a parlé de cette mission qu'on a comme Église de refléter la miséricorde de Dieu, d'être des témoins de cette miséricorde auprès des gens qui nous voient vivre. Ce soir, c'est un petit peu de la même réalité qu'on va parler, mais vu du point de vue de chacun et chacune d'entre nous comme individu, c'est-à-dire comme Église. On est appelé à annoncer la miséricorde de Dieu, mais chacune et chacun des chrétiens, des baptisés, est appelé aussi à annoncer cette miséricorde de Dieu. Commençons par la première phrase, c'est Saint Paul. C'est plus important que le pape? Oui, c'est pas. En tout cas, pas mal important. Alors, une phrase de Saint Paul, « Celui qui exerce la miséricorde, qu'il soit souriant. » Ça souris-tu un peu? Souris, tu m'inquiètes? Oui, OK. Alors, donc, Saint Paul disait, il y a 2000 ans, « Celui ou celle qui exerce la miséricorde, qu'il soit souriant. » que ça paraisse dans son visage qu'il est heureux de refléter la miséricorde de Dieu. Et puis, le pape disait, dit, « Je deviens à la ressemblance de Dieu en acquérant la bonté. » C'est pas mal ça non plus. Alors, c'est un petit peu à ça qu'on est appelé, c'est-à-dire que si on a découvert un peu mieux combien Dieu est miséricorde envers chacun et chacune d'entre nous, bien, on est appelé, avec nos limites, évidemment, à devenir, nous aussi, des visages de miséricorde pour les autres. On réussira jamais à l'être comme Dieu l'est pour nous, mais on est appelé dans notre vie à témoigner un peu de cette miséricorde-là. Là, il y a quelqu'un qui a dit une chose intrigante dans notre équipe cet après-midi. Je ne dirai pas qui, je vais juste le regarder. Alors, il a dit, moi, quand j'étais jeune, là, j'ai été habitué qu'il y avait du monde qu'on n'aimait pas, mais on leur faisait du bien pour l'amour du bon Dieu. Avez-vous été élevé de même, vous autres? Moi aussi. C'est-à-dire que quand on était jeune, même encore maintenant, on est porté des fois à faire une distinction en disant, bon, ben là, telle personne, évidemment, je l'aime, parce que c'est mon conjoint, ma conjointe, mon enfant, mon ami depuis toujours, je l'aime. Puis telle autre personne, ben c'est pas vraiment que je l'aime, mais par amour du bon Dieu, je vais y faire du bien pareil. C'est pas mal comme motivation de faire du bien à quelqu'un par amour de Dieu, mais c'est certain qu'on est appelé autant que possible à aimer quelqu'un pour lui-même parce qu'il est fils et fille de Dieu. C'est pas seulement, je le fais pas seulement pour plaire à Dieu, mais c'est parce que je reconnais dans cette personne-là aussi un visage de l'amour de Dieu. Un visage qui parfois est assez difficile à reconnaître, un visage qui parfois a été pas mal abîmé par la vie, par les problèmes, par les échecs, par les difficultés, mais tout de même, dans chaque personne humaine, un visage de l'amour de Dieu. C'est pas toujours nécessairement comme ça qu'on a dit ça, mais c'est ce qu'on est appelé peut-être à découvrir au cours de cette année de la miséricorde. Si je veux devenir miséricordieux, miséricordieuse comme le Père, ou y ressembler en tout cas, ben, il faut que, comme le Père, je sache découvrir chez des personnes la présence du Fils et du Fils de Dieu en elles et que je sache montrer à cette personne-là cette dignité, cet amour de Dieu qui est présent en elle. Maintenant, le pape nous a dit, dans son petit livre, tout le monde a lu ça, évidemment, Le visage de la miséricorde, oui, qu'est-ce qui est écrit à la page 22, paragraphe 3? Vous savez pas? Moi non plus, ça donne bien. Mais le pape nous a dit dans ce petit livre-là, il y a deux images qui nous aident à comprendre ce qu'on est appelé à vivre au cours de cette année. Il y a l'image du pèlerinage. Le pèlerinage, peut-être qu'on en a fait un pèlerinage en marchant vers une des églises où il y avait une porte de la miséricorde, ou ailleurs, ou peut-être même certains d'entre nous à l'étranger, au Vatican, à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est bien. Mais le pape dit, l'image du pèlerinage, c'est surtout pour nous faire comprendre qu'on est toujours en chemin pour devenir un peu plus semblable à notre Dieu, qu'on est toujours en train d'avancer dans la façon de vivre la miséricorde, et que c'est jamais fini, et que ça demande toujours un certain effort, un certain engagement. Hein? C'est certain que ceux d'entre nous qui ont fait peut-être un long pèlerinage, comme vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ou même aller à Saint-Anne-de-Beaupré à pied, ben on sait comment ça demande de la persévérance, comment ça demande qu'il y a des moments plus de souffrance, plus de difficultés, mais on dit « je continue d'avancer parce que ce que je recherche est important et vaut la peine ». Mais le pape nous dit « dans notre vie, on est sans cesse en pèlerinage pour devenir un peu plus miséricordieux comme le Père ». Puis, deuxièmement, il y a l'image de la porte, évidemment. Mais vous rappelez-vous de ce qui a été lu dans l'Évangile de dimanche dernier? Jésus nous parlait de la porte étroite, hein, c'est ça. Puis là, c'était un petit peu difficile à interpréter parce que dans la première lecture, on disait « Dieu veut le salut de tout le monde, de tous les pays, de toutes les races, de toutes les nations ». Puis quand quelqu'un demande à Jésus « Est-ce qu'il finalement il va y avoir beaucoup de monde de sauver ou pas beaucoup? » Jésus répond « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il dit pas qu'il y aura beaucoup ou pas beaucoup de monde de sauver, mais il dit « Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, la porte est étroite parce que il faut que tu te débarrasses de certaines affaires qui t'empêchent de passer dans la porte. » Hein, c'est ça l'affaire, c'est que la porte, elle est là. Elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde est invité à y entrer. Mais si on a trop de bagages sur le dos, on a de la misère à y entrer. Si on a laissé trop de choses nous alourdir, si on a laissé trop de préoccupations nous empêcher de nous ouvrir à Dieu puis aux autres, ben on a de la misère à passer dans la porte. Hein? C'est difficile. Alors, elle est étroite dans ce sens-là, pas dans le sens que Dieu ne voudrait pas qu'on entre. Au contraire, il veut qu'on entre. Mais il dit, il faut que tu acceptes de te débarrasser peut-être de certaines façons de vivre, certaines idées, certaines habitudes qui t'empêchent d'être fidèle à mon amour et dans le cas qui nous concerne, qui t'empêchent d'avoir vraiment un regard miséricordieux sur les autres. Alors, dans le visage de la miséricorde et dans un texte aussi du frère Aloïs de Thésée, est-ce que tout le monde sait ce que c'est quand on parle de la communauté de Thésée? Hein, cette communauté française qui a commencé par un petit groupe de protestants, de catholiques, puis qui s'est agrandie maintenant et qui a énormément d'influence, surtout auprès de la jeune génération. Alors, celui qui en est présentement le prieur, le frère Aloïs, a écrit, lui, un livre, un texte qui s'appelle « Le courage de la miséricorde ». Alors ça, c'est le visage de la miséricorde. Puis l'autre, c'est le courage de la miséricorde. Mais quand on lit les deux, on s'aperçoit qu'au fond, le pape et puis frère Aloïs nous présentent un petit peu les mêmes pas qu'on peut accomplir, les mêmes façons de vivre qu'on peut développer si on veut vraiment devenir miséricordieux comme le Père. Encore une fois, c'est un chemin. C'est un pèlerinage, ça veut dire qu'on n'est pas rendu au bout. Ça veut dire qu'on n'a pas personne encore réussi à développer tout ça dans nos vies, bien, peut-être les religieuses, par exemple. Mais à part des religieuses, là, peut-être les pères aussi. Mais à part des religieuses puis des pères, là, on n'est pas encore rendu là dans nos vies, mais on est en chemin. Vous êtes d'accord, sœur Claudette?
Oui!
Oui! Alors, je vous décris brièvement quelles sont ces attitudes, quelles sont ces façons d'être, ces façons de vivre que le pape et frère Aloïs nous invitent à développer si on veut devenir des témoins de la miséricorde, si on veut devenir des visages de la miséricorde de Dieu dans nos vies. Alors, la première, c'est accueillir ce qu'il y a de bon dans chaque personne. quand je rencontre quelqu'un, quand je pose un regard sur quelqu'un, évidemment, d'abord, ceux qui vivent tout proche de moi, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes petits-enfants, mais chaque personne que je rencontre, m'efforcer d'abord de voir ce qu'il y a de bon dans chaque personne, de voir ce reflet de l'amour de Dieu qu'il y a en elle, et parfois plus difficile, être capable de lui dire. Des fois, c'est facile de dire à quelqu'un ce qu'on trouve de bon en lui, en elle. Des fois, c'est plus difficile de trouver les bons mots, de le dire d'une manière par laquelle la personne va vraiment nous croire, qu'elle ne dira pas, ben là, tu dis ça juste pour me faire plaisir, puis bon, c'est parce que tu ne veux pas me décourager, bon, tout ça. Alors, c'est peut-être pas toujours facile, mais être capable de voir ce qu'il y a de bon dans chaque personne et quand on peut, être capable aussi de lui dire. Ça serait le premier, la première façon, la première manière de vivre qu'on nous invite à développer pour être des visages de la miséricorde. Le deuxième, qui est plus directement sur le sujet, ne pas nous hâter de juger et de condamner les autres. Et à ce propos-là, le pape dit spécialement pour les confesseurs, nul n'est maître du sacrement du pardon, mais doit être un ministre fidèle du pardon de Dieu. Hein? Nul n'est maître du sacrement du pardon, mais doit être un ministre fidèle du pardon de Dieu. Ça, c'est vrai pour les prêtres. Mais c'est vrai aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Nul n'est maître du pardon de Dieu. C'est pas nous qui décidons si Dieu pardonne ou non, dans quelles conditions Dieu pardonne, quand est-ce qu'il pardonne pas, mais on est appelé simplement à être des messagers de la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Évidemment, cette phrase-là explique un peu ce que le pape a écrit dans son dernier message, vous avez certainement entendu au moins le titre, qu'après avoir tenu deux synodes sur la famille et sur la vie conjugale et sur la vie familiale et sur les difficultés aussi des couples, le pape a publié ce livre qu'on appelle « La joie de l'amour ». Tout le monde a entendu au moins le titre, j'imagine. Hein? Il y a 320... Attendez, il ne faut pas que je vous compte de mensonges. Il y a 325 paragraphes, mais tout le monde est intéressé juste à une affaire. Les divorcés remariés vont-ils pouvoir communier? Tout le reste, c'est pas intéressant. 325 paragraphes, mais c'est la seule chose intéressante. Les divorcés remariés vont-ils pouvoir communier? Vrai ou pas vrai? Bon, ben, ils parlent pas juste de ça, tout de même. Hein? Ils essaient de donner le message le plus positif, le plus beau, le plus encourageant possible sur la vie conjugale, la vie familiale, et de dire en même temps, ben, si vous n'avez pas réussi à vivre votre engagement conjugal comme vous auriez souhaité, si vous avez connu des échecs, si vous avez connu des difficultés, la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu vous est encore offert. Et il dit particulièrement au numéro 308, ça résume bien, je pense, ce qui nous invite à vivre, pas seulement le pape, les évêques, les prêtres, mais tous les baptisés. Alors, il dit ceci, « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion, mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand, même au milieu de la fragilité. Une Église qui soit une mère, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, elle ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route. » Alors, au fond, et il continue en disant, « Les pasteurs qui proposent aux fidèles l'idéal de l'Évangile doivent aussi les aider à entrer dans la logique de la compassion avec les personnes fragiles ou éviter les persécutions et les jugements trop durs ou impatients. » Alors, ça résume bien, je pense, la vision du pape François, en particulier par rapport aux couples qui ont subi des échecs conjugaux, mais c'est une vision qu'il nous propose pour l'ensemble de notre vie d'Église, que l'essentiel n'est pas sur l'enseignement de la loi rigides de façon générale, même si on dit quelles sont les exigences de l'Évangile, mais que l'essentiel est sur la compassion et se faire proche des personnes et les aider à tirer le mieux qu'elles peuvent de la situation dans laquelle elles se trouvent. C'est pas vrai juste au point de vue du mariage, cela. C'est vrai peut-être pour plusieurs d'entre nous, puis pour bien du monde qu'on connaît, dans d'autres situations de fragilité, de souffrance, de difficulté. Le pape nous dit que ça devrait être surtout cette attitude-là qui est développée dans notre Église, si on veut que l'Église soit vraiment une mère, si on veut qu'elle soit vraiment une communauté qui aide les gens à garder une espérance et à aller de l'avant dans leur vie. Alors, donc ça, c'est un numéro. Vous lirez les 322 autres quand vous aurez le temps chez vous. Mais le texte est très beau. Et justement, c'est dommage un peu, c'est inévitable, probablement, mais c'est dommage tout de même que l'écho qu'on en a fait, c'est uniquement sur la question des divorcés réengagés. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que beaucoup de gens ou bien lisent le texte, ou du moins envoient un certain résumé qui va leur aider à comprendre la beauté de la vie de famille et de la vie de couple telle qu'elle nous est proposée là-dedans. Donc, si on revient à nos avancées sur le chemin de la miséricorde, donc accueillir ce qu'il y a de bon dans chaque personne, ne pas nous hâter de juger et de condamner. Troisièmement, éviter l'indifférence à la souffrance. Ouvrir les yeux pour voir les détresses des gens qui nous entourent. Comme ça peut rester un petit peu théorique de dire ça comme ça, le pape emploie une expression plus concrète en disant « serrer les mains des souffrants ». C'est-à-dire pas seulement voir la détresse de nos yeux, pas seulement en entendre parler à la télévision, mais aller vers des personnes souffrantes et leur serrer les mains, c'est-à-dire les toucher, se faire proche d'elles pour comprendre ce que c'est vraiment que leur souffrance. Moi, je serais porté à dire serrer les pieds des souffrants, parce que c'est ça que le pape a fait la première fois qu'il a fait le lavement des pieds. Il est allé dans un endroit où les gens souffraient, une prison romaine. Et donc, par ce geste-là, qui autrefois se faisait dans une église, évidemment, d'une façon très, très belle, pareil, en rappel du dernier repas de Jésus, mais avec des gens qui vivaient une vie pas trop difficile, il a voulu que la première fois qu'il a fait le lavement des pieds le Jeudi Saint, ce soit avec des prisonniers puis des prisonnières, justement pour montrer ce désir de se faire proche d'elles. Il est allé voir des réfugiés, lui-même donne l'exemple de ce qu'il dit, mais chacun et chacune d'entre nous, de façon moins visible, de façon moins spectaculaire, parce qu'on n'est pas le pape, nos gestes ne sont pas suivis par les journalistes au jour le jour, mais on est invité non seulement à voir la souffrance qu'il y a dans le monde, mais à se faire proche de certaines personnes qui souffrent pour essayer vraiment de les comprendre puis de leur montrer qu'on les aime. Donc ça, c'est la troisième étape. Alors, on peut se reposer un peu, Claire, mais on peut chanter quelque chose? On commence à s'endormir, là. On va chanter un petit refrain pour avant de passer à la quatrième, cinquième, sixième. Il y en a six. Non, il y en a cinq, c'est pas trop pire. On avance. Si on ne sait pas quoi chanter, on va chanter miséricordieux comme le Père. Ben, écoutez, c'est ça le thème. On va se lever. Alors, le quatrième pas que le pape nous invite à faire sur le chemin dans le pèlerinage de la miséricorde, c'est d'élargir la miséricorde à ses dimensions sociales, c'est-à-dire non seulement nous faire proche des gens qui souffrent, nous faire proche des gens qui ont besoin de notre amitié, de notre attention, qui ont besoin de nos mains, de nos pieds, mais aussi nous demander est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer dans notre monde pour qu'il y ait moins de souffrance. Alors, c'est sûr que là-dessus, un des points sur lequel le pape a énormément insisté, c'est l'accueil des réfugiés, surtout dans les pays européens, mais à la grandeur du monde. Alors, une question qui fatigue, qui est vraiment importante pour bien des gens, chrétiens ou non chrétiens, mais lui, au nom de sa foi, il a vraiment lancé cet appel qu'on ait des pays, qu'on ait des sociétés, qu'on ait des peuples où les gens qui ont dû fuir à cause de la guerre, à cause de la violence, sentent qu'ils sont accueillis et non pas qu'ils sont des dangers publics ou qu'ils sont des étrangers ou tout ce qu'on veut. Alors, c'est un des domaines dans lequel il nous a dit avec insistance la miséricorde, la compassion. C'est pas seulement de s'occuper de chaque personne qui est mal prise, mais c'est aussi rendre notre monde un peu plus accueillant, un peu plus compatissant. Et donc, chacun et chacune d'entre nous, là où l'on est, on peut se demander, ben moi, qu'est-ce que je peux faire, non seulement pour serrer la main des souffrants, non seulement pour manifester de l'amour puis de la compassion envers les gens qui m'entourent, mais aussi pour que notre monde soit un peu plus fraternel, que notre monde soit un peu plus miséricordieux, qu'ils vivent un peu plus d'entraide et de partage entre les personnes. Quand le bon samaritain de la parabole de l'histoire a eu secouru l'homme qui avait été attaqué par des brigands, ce qu'on nous dit, c'est qu'il l'a amené à l'hôtel et il a dit « prends soin de lui ». Peut-être qu'on peut imaginer, c'est peut-être pas, en tout cas on peut l'imaginer, qu'après ça, le bon samaritain, il s'est arrêté puis il a dit, mais pourquoi y a-t-il des brigands? Hein? Pourquoi y a-t-il des brigands? Une des réponses dans ce temps-là, c'était peut-être pas vrai aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais c'était vrai dans ce temps-là, il y avait des brigands parce que il y avait du monde qui n'était pas capable de gagner leur vie autrement qu'en volant les autres. Parce que les conditions de vie en Palestine au temps de Jésus, était vraiment pas facile pour une grande partie des personnes. Alors, il y en a qui se tournaient vers la violence et la délinquance pour essayer d'avoir ce qu'il fallait un peu pour vivre. Alors, peut-être que le bon samaritain s'est dit, maintenant que j'ai secouru le blessé sur le bord du chemin, est-ce qu'on pourrait changer des choses en Palestine pour qu'il y ait moins de brigands? Ça, c'est pas marqué dans l'Évangile. S'il a pensé à ça, puis qu'est-ce qu'il a fait s'il y a pensé? Mais ça peut faire partie de sa réflexion, de dire non seulement je vais secourir chacun des blessés que je vais rencontrer sur mon chemin, mais je vais me demander est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'il n'y ait pas de blessés? Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'il y ait moins de violence? Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour qu'il y ait moins de gens qui pensent que la seule façon de vivre, c'est de détrousser les autres? Alors, je ne sais pas si le bon samaritain a pensé à ça, mais il a peut-être pensé. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas dans le détail. Alors, nous aussi, aujourd'hui, on est invités à exercer la miséricorde de cette façon-là. Oui, en nous faisant proche des personnes blessées par la vie, mais en nous demandant aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de personnes qui soient blessées par la vie, qui soient seules, qui soient abandonnées. Ça fait partie, ça aussi, du visage de la miséricorde. Et le pape va encore plus loin, parce qu'il nous dit, en plus de ça, il faut exercer la miséricorde pour la création. La miséricorde, c'est pas juste pour les êtres humains, c'est pour tous ces êtres vivants et même pour cette terre que Dieu a faite et qu'il appelle notre maison commune. Hein, dans l'encyclique qui s'intitule Laudato Si, loué sois-tu Seigneur, le pape dit, la terre, c'est notre maison commune Et si on n'en prend pas soin, si on ne l'entoure pas de notre protection, si on n'essaie pas de partager les fruits de la terre avec les autres, à un moment donné, notre maison commune va être en difficulté. Alors, il va jusqu'à dire que la miséricorde doit s'exercer même à l'égard de la terre et de tous les autres êtres vivants qui sont autour de nous. Et naturellement, bien, le texte ici, le visage de la miséricorde, se termine toujours par cette question qu'on s'est posée hier, qu'on s'est posée avant hier, puis qu'on va se poser encore demain. Oui, mais la miséricorde, est-ce que ça va contre la justice? Hein, on a encore et toujours de la misère dans notre cerveau à mettre ensemble ces deux réalités-là, mais en Dieu, il n'y a pas de contradiction entre la miséricorde et la justice, parce que la façon pour Dieu d'être juste, c'est de toujours nous inviter à l'aimer et de nous ramener vers lui lorsqu'on s'en est éloigné. La façon pour Dieu d'être juste, Claudette l'a dit, on se l'est redit plusieurs fois, c'est pas de récompenser les bons puis de punir les méchants. Ça, c'est la justice humaine dont on a besoin parce qu'on vit dans une société qui a ses lois. Mais la façon pour Dieu d'être juste, c'est de récompenser les bons puis de ramener les méchants vers lui pour qu'ils deviennent bons puis qu'ils puissent les récompenser aussi. Hein, on citait ce matin une des prières qu'on fait au début de la messe, un dimanche, « Dieu qui montre la preuve suprême de ta puissance » lorsque tu patientes et que tu prends pitié. Souvenez-vous d'avoir déjà entendu ça un dimanche? En tout cas, si vous en souvenez pas, je vous le répète encore. Dieu qui montre la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et que tu prends pitié. Donc, le sommet de la puissance de Dieu, c'est pas de nous punir, c'est d'être patient avec nous pour espérer toujours qu'on va revenir vers lui. Il nous dit, ben, toi, dans ta vie, à l'égard des autres, essaie de m'imiter un peu. Essaie d'exercer, toi aussi, ta puissance de cette façon-là. Non pas en écrasant les autres, non pas en essayant d'être meilleur que les autres, non pas en jugeant les autres, mais en patientant et en prenant pitié. C'est dur. C'est tough. Non? Hein, quand on a la chance de rendre... Le mal pour le mal, c'est tentant. Hein? Quand on pense qu'on est plus fort que l'autre puis qu'on pourrait monter sur sa tête, c'est tentant aussi. C'est comme ce qu'on a appelé, bien sûr, dans l'Ancien Testament, comme le disait Claudette, la loi du talion. C'est-à-dire, si tu me fais du mal, je t'en fais. Mais le Seigneur nous dit, je t'invite plutôt à me ressembler. Pour moi, la manière dont je montre que je suis puissant, c'est en étant patient et en espérant toujours que la personne qui s'est éloignée de moi va revenir à moi. Mais je t'invite à faire un peu pareil dans ta vie, même si ça te demande un effort. Est-ce que ça serait ça, la porte étroite? Un peu, pas mal, hein? C'est un peu ça, la porte étroite. Mais Jésus nous dit, si tu passes par cette porte étroite-là, si tranquillement, pas vite, tu t'habitues à voir la vie puis à vivre de cette façon-là, ben c'est ça qui te fait entrer dans mon royaume. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que tu me ressembles, c'est ça qui fait que, petit à petit, tu es de plus en plus mon disciple. Alors, mot de conclusion, celui qui exerce la miséricorde, qu'il soit souriant. Celle qui exerce la miséricorde, qu'elle soit souriante. Ouais, c'est pas trop pire. Deuxième mot de conclusion, parce qu'il faut que je commence à imiter Claudette un peu tout de même. Je sais pas, je vais m'en rendre jusqu'à trois, mais ben on n'a pas parlé beaucoup. En fait, tout de même, Claudette en a parlé, là, mais on n'a pas parlé beaucoup, mais tout de même, c'est important de se le redire. Comme dans chacune de nos des enseignements des papes dans notre Église, le texte se termine par un court chapitre qui parle de Marie, mère de la miséricorde. Dans chacun de nos efforts pour être des meilleurs disciples de Jésus, dans chacun des pas qu'on essaye de faire pour aller de l'avant, pour suivre Jésus un peu plus, il y a toujours la Sainte Vierge, il y a toujours la Vierge Marie qui nous montre le chemin parce que c'est elle qui a été parfaitement ajustée à son fils, au projet d'amour de son fils. C'est elle qui a ressemblé le plus à son fils. Alors, c'est sûr qu'on est invité aussi à demander à Marie, toi qui n'es pas Dieu, mais qui es le meilleur disciple que Jésus a jamais eu, ben aide-moi petit à petit à devenir moi aussi un disciple, aide-moi à comprendre et à vivre un petit peu plus ce que c'est que la miséricorde à l'image de ton fils. Alors voilà le pèlerinage que le pape nous propose. On l'a commencé, je pense, chacun d'entre nous. On l'avait commencé avant cette année. C'est pas à partir de 2016 seulement qu'on s'est mis à essayer de vivre la compassion, la miséricorde, l'amour, la tendresse à l'égard des autres. Mais 2016 a peut-être marqué un moment où cette invitation-là s'est répétée tellement souvent qu'on a pris un peu plus de temps d'y penser. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à poursuivre ce chemin-là, puis qu'on comprenne qu'en poursuivant ce chemin-là, on rend d'autres personnes un peu plus heureuses, puis on devient un peu plus heureuses nous aussi, parce que des meilleurs fils et filles de Dieu. Alors voilà à peu près ce que je voulais vous partager ce soir avant qu'on passe à notre Eucharistie de conclusion. On va offrir cette Eucharistie-là pour tout ce qui s'est fait de beau dans la retraite, tout ce qui s'est vécu de beau dans chacun et chacune d'entre nous, puis dans les personnes aussi qui ne sont pas ici ce soir, mais qui sont venues au cours des 3 jours, puis on va demander au Seigneur que, dans notre vie, on devienne de plus en plus miséricordieux comme le Père. Alors, nous préparons quelques mises en place pour la célébration de l'Eucharistie, et elle suit immédiatement. On peut peut-être avoir un chant dans cette période, dans ce court intervalle.